Bonjour, je suis Céline Senoy-Alaya. Simone Weber, la diabolique de Nancy, est morte ce jeudi. Cette femme de 94 ans a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre et le démembrement, avec une meuleuse à béton, de son ancien amant. Mais seul le tronc de la victime a été retrouvé et les circonstances du meurtre n'ont jamais pu être clairement établies. Simone Weber a toujours clamé son innocence. Elle emporte, avec elle, les secrets de cette affaire. Elle était surnommée la diabolique de Nancy. Cette femme de 94 ans, aux allures de grand-mère bien sous tout rapport, yeux bleus et cheveux poivre et sel, vivait retirée sur la Côte d'Azur depuis sa sortie de prison. Car Simone Weber n'était pas une grand-mère sans histoire. Elle a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagnon, Bernard Etier, et a passé 14 ans derrière les barreaux. Pourtant, elle n'a jamais rien avoué et toujours prétendu être innocente. Ce qu'elle maintient après sa sortie de prison quand Christophe Ondelat l'interroge dans l'épisode de « Faites entrer l'accusé » qui lui est consacré.
Simone Weber, avez-vous tué votre ancien amant Bernard Etier ?
Je n'ai pas tué cet homme-là. Et pourquoi ? Moi, je suis d'ailleurs toujours persuadée qu'il est vivant. Je suis innocente. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué ?
L'histoire commence le 15 septembre 1985, quand un tronc humain est repêché dans la Marne, à Poincy, en Seine-et-Marne. Après de longues expertises, hésitantes et contradictoires, il est finalement attribué à Bernard Etier, 55 ans, un ouvrier de l'industrie chimique disparu 3 mois plus tôt à Nancy. Durant les mois qui suivent, le mystère reste entier. Mais la police retrouve enfin la voiture du disparu dans un garage de Cannes, un garage loué par une certaine Madame Chevalier. Un faux nom. Il s'agit en réalité de Simone Weber. Une femme aux apparences trompeuses, comme le pointe Christian Jacques, l'un des policiers chargés de l'enquête dans l'émission 13h15 le dimanche.
Simone Weber, c'est une petite mamie bien tranquille, qui pourrait aller à la messe le dimanche, puis aller chercher ses petits croissants. Mais en réalité, c'est tout autre. Elle a une autre personnalité, beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus intrigante.
Simone Weber n'est en effet pas sans lien avec le disparu. Bernard Etier était son amant. Et elle le harcelait depuis leur rupture, comme le raconte la fille de la victime sur France 2.
J'étais inquiète parce que je sais qu'elle le suivait partout, à la sortie de son travail. Elle le poursuivait jusqu'ici. Alors à plusieurs reprises, elle l'avait drogué avec des médicaments dans le café. Une fois, il a eu un accident de voiture. On l'a retrouvé avec des côtes cassées. Donc je savais qu'elle le harcelait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était sans arrêt. Elle se comportait comme ça parce qu'elle était jalouse. Elle voulait l'avoir rien que pour elle. Elle était son prince, son roi, comme elle disait. À l'époque, papa était avec quelqu'un d'autre, oui. Donc et ça, elle ne la supportait pas.
L'instruction dure 5 ans. Et l'enquête permet de mettre en lumière un épisode troublant du passé de Simone Weber. Car elle est aussi la veuve de Marcel Fixard, 81 ans. Ce militaire à la retraite, veuf et sans enfant, l'a engagée comme dame de compagnie. Simone Weber l'épouse en 1980, mais c'est un autre homme qui se fait passer pour le marier au moment de la cérémonie. 22 jours après le vrai faux mariage, Marcel Fixard, qui ignore être passé devant le maire, meurt d'une crise cardiaque. Contrairement à ce qu'elle imaginait, Simone Weber découvre à l'ouverture du testament que Marcel Fixard ne l'a pas désignée comme héritière. Elle fabrique alors un faux document qu'elle présente au notaire et s'installe dans la maison du défunt. Si ce n'est une preuve, un potentiel mobile pour la justice. Le juge d'instruction Gilbert Thiel est persuadé que Simone Weber a empoisonné Marcel Fixard pour mettre la main sur son héritage, confie-t-il dans Faites entrer l'accusé.
On soupçonnait Simone Weber d'avoir empoisonné son mari, Marcel Fixard, décédé très peu de temps après son mariage tout à fait particulier, très peu de temps aussi avant l'acquisition de Digitaline sous une fausse identité de fait à l'aide d'une ordonnance falsifiée.
Le juge fait même exhumer le corps de Marcel Fixard. Sans succès, les analyses toxicologiques ne prouvent pas formellement qu'un empoisonnement est à l'origine de la mort. Le procès de Simone Weber s'ouvre en 1991. Un procès spectacle. Elle congédie un à un ses 25 avocats, parmi lesquels les célèbres Gilbert Collard et Jacques Vergès, qu'elle juge trop vulgaires. Elle insulte aussi copieusement certains témoins, éclate de rire quand elle entend l'avocat général requérir contre elle une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Un procès comme on en voit rarement, explique à l'époque le journal de 13h de France 2.
Une écharpe pour camoufler ses menottes. Aujourd'hui comme hier, Simone Weber a renouvelé son stratagème. Elle tourne le dos à la salle pour réapparaître face au public, libre de ses mouvements. Mise en plis, chemisier blanc, Simone Weber veut se donner des allures de ménagère tranquille, mais d'autres voient derrière ce regard bleu une maîtresse-femme, un monstre. Hier, le regard de l'ex-aide-soignante s'est porté le matin sur les jurés, que d'une voix douce mais sans appel, elle a récusé elle-même.
Tout du long, Simone Weber garde, à la barre, le même aplomb. Elle nie à l'évidence, se souvient Gérard Velzer, l'avocat des proches de son ancien amant Bernard Etier. Avec elle, blanc, c'était noir, ajoute-t-il, se rappelant son culot extraordinaire et sa présence dans le box. On n'aurait pas cru qu'elle était accusée. Certains éléments sont pourtant accablants, comme le témoignage édifiant des voisins de Simone Weber le lendemain de la disparition de Bernard Etier, quand ils l'ont vu descendre de chez elle une quinzaine de sacs poubelles, raconte le policier Christian Jacques à France 2.
Madame Hague est allée ouvrir un des sacs, a remarqué des chiffons avec des taches rougeâtres qu'elle a assimilées à du sang. Elle a dit que ça sentait comme quand on a ses règles. À partir de ce moment-là, on a un mauvais pressentiment. On imagine une scène macabre. On pense que Bernard Etier a été tué par Simone Weber dans son appartement au premier étage et qu'ensuite elle a essayé de faire disparaître les traces de son méfait.
À l'issue de ce procès fleuve, 31 jours, Simone Weber est acquittée du meurtre de son faux mari Marcel Fixard, annonce le journal de France 3 Nancy. Mais elle est reconnue coupable de celui de son ancien amant, Bernard Etier, dont le corps a été démembré à la meuleuse à béton.
20 ans de réclusion criminelle pour Simone Weber. Le verdict est tombé très tard dans la soirée hier. Après plus de 10 heures de délibération, les jurés ont rendu leur verdict. Oui, Simone Weber a donné volontairement la mort à Bernard Etier. Non, elle n'est pas responsable de la mort par empoisonnement de Marcel Fixard. Un épilogue à la mesure de ce procès marathon. Le film des dernières heures avec José González.
Simone Weber passe encore 8 années derrière les barreaux. En 1999, grâce à une bonne conduite et des remises de peine, elle est libérée. Elle s'installe alors à Cannes, chez sa sœur, et complice. Elle a, elle aussi, été condamnée pour recel de vol et destruction de preuves dans le cadre du meurtre de Bernard Etier. Puis Simone Weber part en maison de retraite. Toutes ces années, elle se fait discrète. Mais en 2016, le téléfilm « La bonne dame de Nancy », consacré à son affaire, est diffusé à la télévision. Dans son rôle, la comédienne Véronique Genest. Un massacre moral, s'insurge Simone Weber sur France 3 Lorraine. Une honte, une ignominie, pour reprendre ses mots.
C'est un massacre moral, une honte, et que des crapules se permettent de faire un film pareil. La contrôle de comportement de l'actrice, là, vraiment, elle a l'air de... Je ne sais pas, je n'aurais pas la basse flatte de son comportement.
Toute sa vie, Simone Weber a clamé son innocence. En 2002, elle est interrogée au sujet de sa mort au micro de Christophe Ondelat. Elle répond, fidèle à elle-même et à sa version de l'histoire.
Le jour où... vous partirez.
Dans l'autre monde.
Oui. Est-ce que vous emporterez un secret?
Non. Non. J'irai retrouver mes enfants.
Aucun secret?
Non.
Vous avez tout dit?
Oui. Je n'aurais pas mené cette bagarre-là si j'avais pas été innocente.
Bonjour maître Liliane Glock.
Bonjour.
Vous avez été l'avocate de Simone Weber depuis 1988, c'est-à-dire 3 ans après le début de l'affaire, et vous avez été son avocate lors du procès. Quel souvenir vous gardez de ce procès?
Très exactement, les dates du procès, le début et la fin, c'est exactement les dates de la première guerre du Golfe à laquelle la France participait. Et c'est vrai que c'est un procès avec le recul. Hein, maintenant, elle meurt, on réfléchit un peu. Et ça me paraît très loin, avec des habitudes qu'on ne retrouve plus, si vous voulez. Le procès, c'était presque une espèce de kermesse triste, vous voyez, quelque chose comme ça. Déjà, il y avait une influence invraisemblable, une impression quand même un petit peu haineuse à son égard dans le public. Oui, il se passait des choses. Par exemple, il y a des gens qui demandaient des autographes de Simone Weber, ce qui est quand même un peu surprenant, des avocats. Bon, il y avait la queue pour entrer dans la salle d'audience qui était saturée. Pour entrer, il fallait attendre qu'une place se libère. Et la queue allait, faisait plusieurs mètres devant la porte de la cour. Le gaillard qui tenait la baraque de frites a pratiquement fait fortune, je pense, quoi. Les gens, entre midi et 2 heures, allaient prendre une frite pour revenir vite fait à l'audience. Donc, une ambiance de procès qu'on ne retrouve plus. Ça, c'est marrant, ça me donne une impression de temps jadis, un petit peu.
Simone Weber est morte ce jeudi 11 avril à l'âge de 94 ans. Est-ce que vous étiez toujours en contact avec elle?
Eh bien, oui. Finalement, j'ai commencé à la défendre en 88. Et c'est vrai qu'après, bon, vous êtes condamné, vous allez en prison, vous êtes transféré à Rennes. Les femmes sont transférées à Rennes pour les longues peines. Vous essayez de sortir un peu avant la peine qu'on vous a infligée. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours écrit. Quand ça a été possible, elle m'a téléphoné, parce que quand elle a été incarcérée tout au début, elle n'avait pas le droit de téléphoner à son avocat. Elle est sortie autour de 2000, elle est allée chez sa sœur dans le sud. Elle est même revenue une fois à Nancy. La dernière fois que j'ai eu contact avec elle, c'est peut-être il y a un mois ou deux. Tout à la fin de sa vie, évidemment, elle était très vieille, elle avait des difficultés pour téléphoner, tout ça, voilà. Mais je peux dire qu'on a eu des relations tout le temps, quoi.
Vous disiez que vous l'aviez eu au téléphone récemment. Quel était son état d'esprit? De quoi vous a-t-elle parlé?
Ah, déjà, la première chose, si je devais la qualifier, je dirais que quelque part, dans sa tête, elle était inoxydable, quoi. C'est quand même une très vieille dame. Et elle a toujours gardé sa vivacité. Et elle a toujours dit qu'elle était innocente dans cette histoire. Pourtant, on a une vérité judiciaire, hein, que juridiquement, si vous voulez, on ne peut pas dire la cour d'assises a tout faux. Enfin, si, elle a toujours dit qu'elle était innocente, mais je crois, moi, quand même qu'il y a un mystère, au moins, quelque part derrière tout ça.
On l'a présentée comme la diabolique de Nancy, on parlait d'elle comme d'une menteuse, d'une empoisonneuse, d'une manipulatrice. Pour vous, qui l'avez connue et défendue, Simone Weber, ce n'était pas cette femme-là?
Ça, si vous voulez, bon, c'était un petit peu, pardonnez-moi, je ne veux pas vous être désagréable, mais quand même le battage médiatique, quoi. Et c'est vrai qu'elle aussi comptait sur la presse quand même. Elle considérait que son dossier n'avançait pas trop quand même, en tout cas pas dans le sens qu'elle souhaitait. Et elle voulait vraiment faire appel à la presse, elle-même par l'intermédiaire de ses avocats, etc. Et elle y comptait vraiment. Bon. Après, elle a renvoyé une image qui a été appréciée négativement. Moi, je vois quand même en Simone Weber une femme courageuse. À cette époque-là, elle a élevé toute seule ses enfants, elle s'est toujours battue, il n'y avait pas d'aide sociale comme il y en a maintenant. Et voilà, ce n'était pas facile, quoi. Et je dois dire, en ce qui me concerne personnellement, elle a fait preuve d'une loyauté que je n'ai pas oubliée. Tout le monde, c'était une particularité du procès, a assisté à la valse des avocats. Elle en a désigné, je crois, 23, sauf erreur de ma part, un ou deux près. et tout le monde était désigné, jeté, quoi. Elle a toujours voulu me garder pour sa défense, alors que c'était peut-être pas si facile que ça pour elle. Et donc, quelqu'un de courageux.
Vous avez aussi défendu le tueur en série Francis Holm, ou encore Jacques Maire, qui a été soupçonné dans plusieurs affaires de disparition. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce procès-là et dans la personnalité de Simone Weber ?
Dans le procès, on a vu ça un petit peu tout à l'heure, c'est un procès qui pourrait plus avoir lieu comme ça, quoi. Je veux dire, pour ce type d'affaires, c'était très long, ça a duré un mois et demi quand même. Si vous me demandez pourquoi c'était un procès exceptionnel, je vous dirais que c'est en raison de la personnalité de l'accusé. Vous savez, ça c'est une grande question que vous posez aux avocats, qui consiste à dire, qu'est-ce qui fait qu'un procès va être un procès, une affaire médiatique ? Eh ben moi je dis, c'est pas la notoriété des avocats, c'est pas la personnalité du juge, c'est pas tout ça. C'est la personnalité de l'accusé. Si vous avez un accusé qui est sans saveur ni odeur, ça sera pas un grand procès. Sa personnalité, ben voilà, moi j'ai avec elle un rapport d'avocat à client. Entre nous, il y avait un rapport, je vais dire, de confiance.
Dans un épisode dédié à Simone Weber de « Faites entrer l'accusé », diffusé au début des années 2000, vous êtes présentée à l'époque comme celle à qui Simone Weber se confie. Elle vous raconte son histoire, son passé, ses difficultés. Qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Ah, si vous voulez, Simone Weber se confie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je vous ai dit, elle avait confiance en moi. Ce qui ne veut pas dire qu'elle se confie. Je ne suis pas sûre que Simone Weber était du genre à se confier à qui que ce soit, sauf peut-être sa sœur et son fils François. Et je crois, sans certitude, enfin certitude pour la sœur, Madeleine est morte il y a déjà plusieurs années, mais là, on ne sait pas où est François, on ne sait pas s'il est vivant. Et je crois que, enfin, l'idée générale, ce que disait Simone, hein, c'est qu'il est mort. Donc, si vous voulez, les gens qui étaient vraiment extrêmement proches d'elle, eh ben, il n'y en a plus. Donc, si Simone a des secrets, elle les a emportés, je crois.
On a beaucoup entendu parler de son regard, l'avocat général qui parle de sa théâtralité, un commandant de police qui l'a arrêté. Tous parlent d'un regard foudroyant qu'on ne pouvait soutenir. Vous l'avez constaté, ça, maître Liliane Glock. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce regard ?
Écoutez, si vous reprenez la presse de l'époque, je crois que le Républicain titrait « Les yeux bleus de Simone ». Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe à la cour d'assises. Au début, en général, le président ou la présidente de la cour d'assises demande à l'accusé s'il est d'accord pour qu'on fasse des photos et dit aux photographes qui sont présents, vous avez, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure pour faire des photos. Et puis après, c'est fini, on ne photographie pas dans les salles d'audience. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est vrai que la photo qui a fait le tour des médias, on va dire, c'est Simone, et on ne voit que les yeux bleus de Simone, en effet. Grand et expressif. Et qui n'exprimait pas l'amitié, c'est normal, hein, procès d'assises, elle est l'accusée, voilà, quoi. Et une autre caractéristique de son procès, c'est qu'elle a absolument voulu participer activement à sa défense. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un peu dangereux comme stratégie. Ben voilà, le regard de Simone, c'était un regard qui parlait, quoi.
Vous le disiez tout à l'heure, il y a une vérité judiciaire. Mais pour vous, Simone Weber, est-ce qu'elle est coupable et est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des doutes ?
Écoutez, moi je suis son avocat. J'ai plaidé son innocence. Comment un avocat, là, à ce moment-là, se dit « Est-ce que j'accepte d'aller plaider l'innocence de ma cliente ?» Il y avait des éléments dans le dossier qui étaient… La pente n'était pas forcément facile à remonter. Et de deux choses l'une, ou bien le client vous dit des choses qui sont possibles, ou bien il vous dit des choses impossibles. Moi, j'ai toujours considéré qu'elle se déclare innocente, ça me paraissait possible.
Merci à vous, maître Liliane Glock, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous également de m'avoir demandé de m'exprimer.
Merci à Marie-Aimée pour la réalisation de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.